Chapitre 2. À une quinzaine de kilomètres de là, Egon Godfrey achève les derniers préparatifs de l'arrestation d'Ansel et Claire Hawk. Il s'agit de s'assurer de leur pleine et entière coopération dans le cadre des recherches entreprises pour retrouver leur belle-fille. Le terme « arrestation » n'est pas le bon. Tous les participants à l'expédition dirigée par Godfrey dispose d'accréditation en règle du département de la sécurité intérieure, mais aussi de papiers au nom de la NSA et du FBI, alors qu'ils n'œuvrent pas réellement pour le compte de ces deux services. Ils reçoivent pourtant un traitement de chacune de ces trois agences fédérales, avec les avantages afférents. Officiellement, leur rôle consiste à protéger et défendre leur pays, mais ils œuvrent en réalité pour la révolution. Les dirigeants de celle-ci veillent à ce que leurs fantassins soient grassement rémunérés sur les deniers du système qu'ils ont décidé d'abattre. Les états de service exemplaires d'Egon Godfrey à la sécurité intérieure lui ont valu d'être contacté par les techno-arcadiens, les penseurs de cette révolution secrète. Il les a rejoints sans état d'âme. De toute façon, il ne croyait plus aux États-Unis. Les techno-arcadiens vont changer le monde. Ils entendent pacifier l'humanité, éradiquer la misère, donner naissance à l'utopie avec l'appui de la technologie. Du moins, est-ce ce que voudrait laisser croire le grand ordonnateur? Il n'est pas question d'arrêter les Hawk et de les confier aux instances judiciaires. Godfrey et son équipe se contenteront de prendre possession d'eux. Sans jugement ni avocat. Egon Godfrey est arrivé à Worstead, au Texas, un peu après 16 heures. Le temps de prendre une chambre à l'Holiday Inn local, il s'ennuyait déjà. En 1896, quand ce trou perdu est devenu le point de ralliement des propriétaires de ranchs et de fermes des environs, on a baptisé l'endroit « la capitale de la tonte », du fait des énormes quantités de laine qui transitaient par là avant de fournir les usines textiles du pays. Lorsque la bourgade a obtenu le statut de municipalité en 1901, les édiles locaux ont préféré lui donner officiellement le nom de Worstead, en hommage au village anglais de Norfolk, dont est originaire la laine peignée. La bourgade compte désormais 14 000 habitants, mais Godfrey ne trouve aucun charme à cette ébauche de lieu. Les rues ne sont même pas ombragées, seuls quelques arbres poussent dans le petit parc du centre-ville. On dirait le décor d'une pièce de théâtre indigente. Alors que le soleil se couche, il longe les immeubles coiffés de toits plats bordés de parapets, les mêmes derrière lesquels se protègent shérifs et desperados dans les vieux westerns. Avec leurs façades de briques ou de pierre, les bâtiments se ressemblent tous. Paloma Sutherland et Sally Jones, deux des agents originaires de Dallas placés sous les ordres de Godfrey, boivent tranquillement un verre de Julio's Steakhouse. Il les aperçoit assises de l'autre côté de la vitre et leurs regards se croisent. Sur un banc du petit parc, Rupert Baldwin est plongé dans la lecture d'un journal. Chaussé de Hush Puppies, vêtu d'un costume en velours côtelé et d'une chemise beige que rehausse une cravate mexicaine ornée d'un fermoir en turquoise, il a tout d'un prof de sciences de lycée. Mais on aurait tort de se fier aux apparences. Godfrey passe à sa hauteur et Rupert se racle la gorge. Vince Penn est assis sur un banc voisin, presque aussi large que haut, avec un visage plat. Il a des mains d'étrangleur. Il tient dans le creux de sa paume des petits cailloux qu'il jette avec une précision diabolique sur les écureuils sans méfiance, habitués à la bienveillance des autochtones. Au sud du parc, se dresse la façade du Purple Sage Inn, un motel familial deux étoiles sans aucune allure. Un Range Rover est garé devant la chambre 12. Un 4x4 amélioré avec une carrosserie en fibre de verre et un double tuyau d'échappement en titane, auquel ont droit depuis quelque temps certains membres de la Révolution. Le Range Rover confirme la présence en ville des deux principaux collaborateurs de Godfrey, Christopher Roberts et Janice Dern. En comptant Godfrey lui-même, ainsi que les deux hommes placés en surveillance à l'entrée du Ranch Hawk, une quinzaine de kilomètres plus à l'est, L'équipe de 9 personnes est au complet. Pas question d'utiliser pour cette opération des téléphones jetables ou même des Toki Midland GXT. Au Texas, comme dans d'autres régions des États-Unis, on dénombre trop de crétins parano persuadés que des individus affiliés au gouvernement ou au complexe militaro-industriel fomentent de dangereux complots. Pour beaucoup des flics et des militaires, ces gens passent leur temps à surveiller les communications dans l'espoir de voir confirmer leurs soupçons. Du moins, est-ce ce que voudrait laisser croire le grand ordonnateur? À présent qu'il a pu s'assurer de la présence des membres de son équipe, Godfrey poursuit sa balade en ville alors que le soleil baigne les rues d'une lumière violette, donnant l'illusion que derrière l'apparence tranquille de ce village engourdi, sommeille la véritable réalité du monde. Egon Godfrey n'est pas un simple adepte du nihilisme qui ne croit plus au sens de la vie. C'est un nihiliste radical, qui n'adhère plus à la notion de vérité objective. Il est persuadé que le monde et tous ceux qui le peuplent relèvent du fantasme et de l'illusion. À ses yeux, le quotidien est aussi éphémère qu'un rêve. Chaque instant n'est qu'un mirage. Sa seule certitude est d'exister en esprit, dans un corps illusoire. Il pense, donc il est. Mais son corps, sa vie, son pays et son monde sont autant d'illusions. Tout autre individu, moins éclairé que lui, aurait sombré dans la folie ou le désespoir face à un tel constat. Godfrey reste sain d'esprit, car il accepte de jouer avec l'illusion du monde qui l'entoure en improvisant son rôle dans une pièce donnée à l'intention d'un auditoire inconnu. Il n'est qu'une marionnette, mais cela ne le dérange pas et pour deux raisons. La première tient à sa curiosité insatiable. Il est impatient de connaître la suite. La seconde est liée à son goût de l'autorité. Celui-ci n'a aucun sens, bien sûr, puisqu'il ne contrôle rien. Mais il préfère de loin diriger les autres que subir la domination d'autrui.